Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Aujourd'hui, on va vous décortiquer les résultats, le jugement du procès Epic contre Apple. On a aussi la pire idée du monde au Brésil et au Texas. On a aussi une idée qui est peut-être la deuxième pire idée du monde potentiellement au Salvador et plein d'autres news tech évidemment aujourd'hui dans le Rendez-vous Tech. Elle était très mauvaise cette intro, Cédric. Mais on l'avait déjà fait trois fois, donc je me suis dit, on va peut-être pas la faire encore une fois.
Faut juste faire le constat de son échec et passer à la suite. Voilà,
surtout quand on fait du live tout recording en live et tout, faut pas trop faire attendre les gens. Comment va Cédric Ingrand aujourd'hui? Je parle de toi à la troisième personne pour te présenter, tu vois, aux auditeurs.
C'est très gentil. Il va remarquablement bien, sinon que toi tu peux pas savoir parce que t'habites très loin, mais. Un temps de chien à Paris aujourd'hui, mais un truc. Oh, on est passé de pas d'été à « Oh, il y a peut-être l'été ». Non, ça y est, c'est l'automne. À 9h30, il faisait encore nuit. Enfin, ça y est, on est passé directement de pas d'été à la déprime hivernale. Donc, c'est nickel.
Tu vas pas me faire pleurer parce qu'ici, il faisait 10 degrés en août. Hein, donc,
Oui, mais toi, tu as choisi.
C'est pas faux.
Tu pouvais pas arriver en disant « Ah, mais je ne savais pas que c'était… » Hey, mec, c'est la Finlande, chérie. Tu vois ce que je veux dire?
Bon, je suis Patrick Béja et on a un programme bien chargé aujourd'hui, comme je vous le disais dans cette intro ratée. Avant de se lancer, je vais tout de même remercier Cornel, Julien Hubert, Christine Hu, Amaury Barbet et Monsieur Denis de leur soutien par Patreon. Et je remercie très, très chaleureusement Stéphane Yoret et Stéphane Grégory Sata, les producteurs de cet épisode. Les producteurs, c'est ceux qu'on remercie tous les mois parce qu'ils ont trouvé le niveau secret sur patreon.com/rdvtech. Et donc, voilà, ce sont des personnes encore plus exceptionnelles que toutes les personnes exceptionnelles qui soutiennent l'émission. Et donc, je les remercie du plus profond de mon cœur. Et je dis un petit mot pour l'after show aussi. Si vous êtes patriote, justement, vous aurez droit à l'after show à la fin de l'émission. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être parler de Bitcoin et du sentiment des vrais gens par rapport au Bitcoin. Et si vous êtes partant, on en parlera dans l'after show après l'émission pour les patriotes. Sinon, on pourra parler d'autres choses aussi si ça vous dit. Mais je serais curieux de savoir ce que pensent les gens qui ne sont pas juste des fans de crypto-monnaie et de Elon Musk. Encore que peut-être que dans l'audience, il y en a plein des fans de crypto-monnaie et de Elon Musk. On verra ça tout à l'heure pour les patriotes. Mais le premier sujet est un sujet extrêmement important puisque c'est le résultat du procès Epic contre Apple qui a été rendu, le jugement a été rendu il y a quelques jours à peine et les réactions sont déjà assez vives. Alors, on va vous expliquer rapidement les résultats de ce procès, le jugement. Et après ça, on va débattre de ce qu'on peut en dire parce que moi, je me suis rendu compte que mon interprétation était un petit peu à l'opposé de ce que j'ai lu un petit peu partout ailleurs. C'est-à-dire que la plupart des gens estiment qu'Apple a gagné et moi, je trouve qu'Apple a beaucoup perdu dans ce procès. Donc, la première chose à faire, c'est peut-être de dire, d'expliquer ce qui s'est passé exactement. Vous vous souvenez que le procès opposait Epic à Apple, Epic étant un développeur de jeux, du jeu Fortnite, parce qu'ils voulaient avoir l'autorisation non seulement d'utiliser leur propre système de paiement dans l'App Store sur les appareils iOS, mais également ils voulaient pouvoir installer leurs applications en dehors de l'App Store, donc sans le contrôle d'Apple, ce qui est évidemment impossible sur les appareils d'Apple. On ne peut installer des apps que directement depuis l'App Store. Ils sont aussi en procès avec Google, dans un autre procès dont on n'a pas encore les résultats et qui a d'autres affaires et d'autres révélations assez croustillantes qu'on vous a expliquées ces dernières semaines et ces derniers mois. Mais pour le moment, on parle vraiment de ce qui les oppose à Apple. Et en gros, la juge Yvonne Gonzalez-Rogers a jugé en faveur d'Apple pour une bonne partie des points et les deux principaux que j'évoquais ont été jugés en faveur d'Apple. C'est-à-dire que la commission reste pour la commission des 30%, qui était le problème que mettait en avant Epic pour dire mais c'est pas possible de payer 30% de commission juste pour ça, ça n'est plus du tout adapté aujourd'hui et c'est une sorte de racket. Et ben la commission reste. Et la possibilité d'installer des applications tierces n'est pas donnée. Donc, tout reste au statu quo, c'est-à-dire que tout reste comme c'est jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que sur ces deux points, eh ben, il faut avouer que Apple a quand même, on va dire, ils ont eu chaud et ils n'ont pas eu de conséquences qui les obligent à changer la manière dont fonctionne le store aujourd'hui. Mais il y a deux choses intéressantes à noter. Je passerai à mon interprétation ensuite. Il y a beaucoup, beaucoup de détails dans le jugement, mais les deux choses supplémentaires que je note, c'est d'une part le marché qui a été défini par la juge, et la question du marché est extrêmement importante parce que certains disent que le marché, en fait, c'est les appareils iOS. Et si on considère que les appareils sous iOS sont le marché qu'on doit prendre en compte, eh bien, évidemment, de facto, Apple a un monopole. Et si jamais on considère que les téléphones mobiles sont le marché, eh bien dans ce cas-là, Apple n'a pas le monopole. Donc, c'est une question extrêmement importante. Eh bien, la juge a estimé que le marché n'était pas simplement les appareils iOS et pas non plus tous les jeux vidéo dans leur ensemble, mais spécifiquement les jeux vidéo mobiles, dans le cadre des demandes d'Epic, puisqu'eux, ils parlent de jeux vidéo et pas d'app en général. Donc, elle considère que le marché, c'est les jeux vidéo mobiles. Donc, il n'y a pas de monopole, puisque évidemment, Apple est en situation minoritaire au niveau du nombre d'utilisateurs, et y compris, dans la question des revenus, ils n'ont pas du tout une majorité, enfin, ils ont une majorité de revenus, mais qui ne s'approche pas du tout d'un monopole. Ils sont à, je crois, 57%, quelque chose comme ça, autour de 60% des revenus du marché du jeu mobile. Et quand on dit mobile, on parle bien de téléphone mobile et pas de la Nintendo Switch, elle n'est pas incluse là-dedans. On parle bien de marché mobile. Ce qui est... C'est intéressant, d'ailleurs, elle motive sa décision en disant qu'il n'y a pas vraiment de porosité entre les joueurs mobiles et les joueurs de consoles et de PC, qu'on appelle souvent les joueurs traditionnels, de machines traditionnelles, et que donc c'est un marché qui est un petit peu séparé. Les uns jouent sur mobile, les autres jouent sur console et PC, et il y a peu d'échanges entre les deux. Donc c'est bien un marché séparé. Donc le marché est défini et n'est pas ne met pas Apple en position de monopole. Donc ça, c'est clairement une grosse victoire pour Apple parce que ça aurait eu des conséquences dramatiques pour eux. Et l'autre point qui, pour moi, est très important, c'est la question des moyens de paiement tiers. C'est-à-dire que Epic et d'autres veulent avoir la possibilité de facturer les utilisateurs, de faire payer les utilisateurs autrement que par le système d'Apple qui prend une commission de 30% au passage. Et la juge explique très spécifiquement, en fait, elle reprend les termes, si je ne me trompe pas, du contrat d'utilisation, enfin du contrat de développeur d'Apple sur iOS, et dit « Vous n'avez pas le droit d'interdire aux développeurs de présenter des liens ou des boutons ou des embeds qui laissent les utilisateurs payer » par une app de paiement tiers, ce qui est le cœur des exigences d'Apple, puisque eux, ils ne veulent que ne soit présenté et que ne soit évoqué où que ce soit que le moyen de paiement d'Apple. C'est-à-dire que quand on fait une app sur iOS, eh ben on ne peut présenter que le paiement par Apple où il prélève 30%. On ne peut pas passer par un paiement tiers. Et la définition de ce que dit la juge est peut-être encore un tout petit peu à interpréter. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut carrément mettre un bouton avec payer 9 euros ici ou alors est-ce qu'il faut un lien qui amène sur un autre site web, etc. Ce n'est pas encore 100% sûr, mais potentiellement c'est le cas et on peut justement en discuter. Pour moi, c'est ça qui est très important, qui fait qu'Apple, au final, risque gros dans cette affaire et à même, à mon sens... Justement, parlons un petit peu de tout ça et je vais donner mon interprétation, mais je vais te poser la question. Du coup, Cédric, qu'est-ce que tu penses de ce jugement? Est-ce que c'est une bonne affaire, une mauvaise affaire pour Apple? Qui en sort gagnant, finalement? On précise, pardon, une dernière chose, qu'Epic a déjà fait appel de la décision. Donc, eux, ils ne sont pas satisfaits de cette décision. Ils voulaient, en gros, pouvoir installer leur App Store sur iOS. C'est ce qu'il y a derrière toute cette demande et emmagasiner beaucoup, beaucoup de sous par ce biais.
Évidemment. Alors, c'est compliqué. C'est un peu une école des fans à l'envers, en fait, cette histoire, en ce que bah, tout le monde a gagné, mais tout le monde a un peu perdu. Du coup, ça donne l'impression d'une décision équilibrée. C'est-à-dire que, par exemple, la juge ne s'est pas hasardée à essayer de décider du fait de savoir si 30% c'est une commission, comment dire, juste ou non. Parce que c'est compliqué, ça veut dire quoi, juste? Du coup, plutôt que de rentrer dans ce genre de détails, elle a juste dit, bah, écoutez, c'est pas grave, le marché va en décider. Donc, vous allez à côté du in-app purchase de iOS, il va falloir laisser les développeurs installer leur propre système. Alors, c'est intéressant, moi, j'aimerais bien voir les conséquences sur le marché des apps au sens plus large, parce que est-ce que tout ça ne concerne que le jeu vidéo? Pas sûr, je pense pas, parce que ça va être difficile à défendre.
Ouais,
cette ouverture ne concerne que le jeu vidéo.
Elle a défini le marché sur le jeu vidéo pour définir le marché, mais de ce que je comprends, sa décision sur les liens pour les paiements s'applique aux apps en général.
C'est le
contrat, voilà, s'applique à tout le monde. En tout cas, c'est ce que je comprends. Encore une fois, le jugement a 24 heures à peu près, un petit peu plus, et donc c'est encore étudié par des gens qui sont bien plus intelligents que moi. C'est une question spéciale. Bien sûr.
Ouais. L'enjeu, il va évidemment y avoir des appels, mais ça va quand même permettre de résoudre certaines situations un peu grotesques. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, tiens, je dégaine mon application Amazon, je cherche un livre, ah, il est là, chouette, il est aussi disponible sur Kindle, je vais donc le... Ah bah non, je ne peux pas le commander. Ah bah non, parce que ce serait une vente de contenu numérique, donc il faudrait passer par Apple. Et à ça, Amazon a dit, jamais je te donne 30%, qu'on soit très clair. Donc il faut retourner sur le web ou retourner sur son Kindle. Mais tu vois, là où tu peux avoir des expériences d'achat fluides, d'ordinaire, quelle que soit la machine, là, tout à coup, c'est genre, ah non, alors si vous le voulez, non, il n'a pas l'air, vous calez. Bref, ça pourrait régler le problème de manière à peu près élégante. Et puis, ça éviterait... je crois qu'Apple avait déjà fait une espèce de simili-exception quand même pour Netflix. Hein. C'est-à-dire que d'abord tu étais forcé d'en
faire plus les détails de trucs, ce qu'ils ont fait la semaine dernière, c'est qu'ils ont autorisé les applications de lecture de contenu, donc Netflix, Kindle, etc., à mettre un lien unique vers le compte, la page de création de compte pour utiliser le service, ce qui n'était pas autorisé jusqu'à maintenant. Clairement,
ce n'est pas la même fluidité que de le faire évidemment à l'intérieur de l'application directement.
C'est sûr.
Voilà. Je quitte d'ailleurs à utiliser Apple Pay.
Exactement.
Voilà.
Il y a une chose vraiment qu'il faut préciser, la manière dont pourront être implémentés ces systèmes n'est pas encore complètement certaine. C'est-à-dire que si c'est un lien qui va ouvrir une page web dans laquelle il faudra rentrer toutes ces informations de paiement, évidemment, c'est pas idéal. Mais il n'est pas dit que ça soit ça. Elle dit spécifiquement qu'on peut utiliser des boutons avec métadonnées, des liens externes, des call to action, etc. Un bouton avec métadonnées, comme le dit justement, je crois que c'est Nilay Patel dans The Verge, un bouton, ça peut être un bouton payé 9 euros. Tu vois, ça peut complètement être ça. Et puis, il y a un autre élément qui, moi, me chatouille un petit peu. C'est que beaucoup de gens jugent le jugement, en fait, et ses conséquences à l'aune de la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, évidemment, il va y avoir beaucoup de chaos, beaucoup de confusion dans les débuts de l'implémentation de ce type de système. Mais il est tout à fait imaginable que ça se décante pendant les quelques prochaines années et qu'il y ait des systèmes alternatifs unifiés qui feront que, on a par exemple, j'en sais rien, mais un lien, ça peut être un lien vers une autre app. On peut avoir un lien qui dit payer 5 euros avec ce système et c'est un système que tout le monde utilise qui est alternatif un petit peu universel, pour lequel on a d'ailleurs une app dans l'App Store et qui va permettre du coup de facturer autrement par cette app-là et qui sera installée pour tout le monde. Et donc, on n'aura pas besoin de donner ces informations de paiement à chaque fois pour chaque différente app pour laquelle on voudrait payer. Un site comme Amazon, par exemple, ils n'ont pas besoin de vous faire créer un compte et de vous faire créer donner vos informations de paiement. Ils les ont déjà. Et on pourrait imaginer, par exemple, au hasard, que Amazon fasse un système Amazon Pay sur iOS et ils vous facturent, ils payent les développeurs et ils ne prennent que 5%, 10%, on ne sait pas.
La commission de paiement comme ça existe ailleurs. Je pense évidemment que dans ces conditions-là, tu vas voir d'abord des PayPal, des Stripe, etc. se jeter dessus, ne serait-ce que pour fournir le service aux développeurs en disant « Finalement, maintenant, vous pouvez être payé directement. » Je ne te raconte pas, il y a certains développeurs qui vont y aller un tout petit peu à reculons ou un peu en disant « On va laisser passer les autres d'abord. » Pour voir comment ce que ça entraîne dans leur relation avec Apple. Parce que ce qu'on oublie de dire, et c'est là où Epic a perdu, c'est que ce n'est pas parce qu'ils ont gagné, en tout cas, cette bataille juridique-là, enfin, l'ouverture du paiement, que, par exemple, que leur compte développeur a été rouvert, que leurs applications vont revenir, etc. Apple dit ils reviendront quand ils se conformeront aux mêmes règles que les autres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que les autres ? Clairement, tu le disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'Epic va pouvoir installer son magasin d'applications sur iOS, qui était quand même la vraie bataille.
Oui, parce que le endgame, c'est ça. Pour tout ce qu'ils disent sur notre combat pour les petits développeurs, qui d'ailleurs aujourd'hui payent 15%, hein, les petits développeurs, depuis des changements très récents, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils s'en foutent des petits développeurs. Enfin, ils s'en foutent, j'en sais rien. Tim Sweeney est quand même quelqu'un qui semble être assez idéologiquement motivé, mais... Eux, ce qu'ils veulent, c'est installer leur App Store sur iOS. C'est ça qu'ils veulent au final. Donc, cette décision ne leur convient pas pour cette raison. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à dire qu'Apple a... que eux ont gagné, comme l'ont dit certains aussi. Ce qu'il y a, c'est que le système en question pourrait, au final... menacer le modèle de l'App Store. Parce que le modèle de l'App Store qui génère énormément de revenus pour Apple, c'est, je ne sais pas si c'est le deuxième ou le troisième poste de revenus pour Apple après les iPhones, mais c'est vraiment, vraiment important. Il est complètement menacé par ce système à l'horizon, on va dire, 2, 3, 4 ans quand les choses se décantent. Complètement menacé. Du coup... Est-ce que Apple va avoir... Alors, ils peuvent exiger des choses. Hein, ils peuvent dire, OK, vous pouvez mettre un lien externe, mais vous devez aussi afficher le système de paiement d'Apple. On peut imaginer que ça sera le cas. Si le système de paiement tiers coûte 20% de moins, bah, évidemment, ça ne sera pas très attractif d'avoir le système de paiement d'Apple. Donc, peut-être qu'ils vont dire... Oui, mais vous devez faire payer le même prix, ce qui, à mon avis, n'est pas du tout dans l'esprit du jugement de ce procès. Donc, à mon avis, c'est compliqué de dire ça.
Le but de tout ça, c'est quand même d'explorer quel est le vrai montant normal
c'est ça.
De commission sur l'achat de contenu in-app. Ce n'est pas de dire, bon, vous pouvez mettre d'autres systèmes de paiement, mais c'est 30% pour tout le monde.
Bah ça, oui. Et du coup, est-ce qu'ils vont exiger qu'une app comme Netflix, j'imagine qu'ils pourront peut-être à terme implémenter ce genre de choses, est-ce qu'ils vont dire, OK, bon, vous mettez ça, mais il faut du coup maintenant aussi mettre le système de paiement d'Apple et là où ils disaient, vous pouvez rien mettre, maintenant ils vont dire, bon, bah, faut tout mettre. Enfin, c'est vraiment et j'insiste, hein, à terme, ça peut menacer le business model de l'App Store. Parce que si ça devient simple de faire payer par ailleurs, il n'y a vraiment aucune raison de payer 30% à Apple. Bon, j'exagère, hein. il y a toujours un facteur praticité qui fait que ça sera plus simple de payer directement par Apple. Et donc, c'est ça au final, c'est comme tu le dis, l'idée au final, c'est de savoir quel est le vrai prix de tout ça et de faire jouer le marché pour que les forces du marché d'offre et de demande déterminent le vrai prix, le vrai montant de la commission pour ce type de service, quoi.
Oui, bon, évidemment, je pense qu'Apple fera jouer cette équité à l'envers, c'est-à-dire de dire, attendez, OK, soit évidemment, vous pouvez payer avec ce que vous voulez, mais vous devez faire apparaître nos systèmes de paiement, etc. etc. D'autant qu'ils auront toujours un avantage, c'est qu'il ne sera jamais plus simple de payer avec autre chose qu'avec le système in-app, parce que de toute façon, Apple a déjà tes données, tes machins, DoubleClick, Apple Pay, le reste.
Oui, mais comme on disait, PayPal, Amazon, ils l'ont aussi, hein, donc...
Oui, mais il faudra sortir de là. Enfin, je sais pas, il y aura peut-être d'autres systèmes, mais ce sera de toute façon, ce sera jamais aussi simple que d'utiliser l'in-app tel qu'il existe aujourd'hui. Voilà. Donc cet avantage-là restera à Apple, mais ça c'est normal, hein, c'est finalement logique. Maintenant, de fait, ça va peut-être les forcer à tirer un peu les prix. Enfin bon, bref, je sais pas comment ça va se passer. Je pense que ça va être. Tu avais raison de dire que les premiers mois, les premières années vont être peut-être un peu chahutées.
Et du coup, l'autre question qu'on peut se poser, c'est quelles conséquences il va y avoir pour d'autres écosystèmes. C'est vrai qu'il y a plein d'écosystèmes qui fonctionnent de cette manière. Au-delà de Google, toutes les consoles de jeux, puisque c'est spécifiquement de jeux dont on parle, appliquent le même type de commission. Alors, le marché est beaucoup plus dynamique dans le marché des consoles de jeux, puisqu'on a Sony, Microsoft, Nintendo, et même sur PC, il y a d'autres acteurs, dont Epic, évidemment. Mais ça pourrait avoir des conséquences sur tout ça. Et tous les marchés prennent à peu près 30%. Et si l'interdiction de mettre des liens externes sur iOS, logiquement, sur le papier, je ne vois pas en quoi la logique serait différente sur d'autres plateformes, comme par exemple la PlayStation. Il n'y a pas de raison que ça s'applique différemment. Tu vois, ça semble très différent, mais...
Bah oui, tu ouvres un peu la boîte de Pandore, c'est-à-dire que évidemment là où il y a le plus de transactions, ce qui brasse le plus d'argent, c'est clairement le l'App Store. Mais il y a toujours une frontière, d'ailleurs, tu remarques, hein, entre tout ce qui touchait ces histoires de magasins d'applications et ce qui se passait sur les consoles. C'est on se disait, ben tiens, c'est pas normal que regarde. Par exemple, je ne sais pas que demain, dans le futur macOS, on ne puisse installer que des applications sortant de l'App Store, du Mac App Store, et que, mais alors qu'on dit que sur les consoles, non, c'est normal que Nintendo maîtrise tout de bout en bout. À un moment, il y a un souci, mais en même temps, personne n'en a fait, tu vois, son cheval de bataille, même pas Epic. Ah oui, à part Epic.
Ils ont baissé à 12% la commission. Enfin, ouais. Ils ont baissé. Leur store ne prend que 12% de commission. Donc.
Ouais, tout à fait. Mais pour l'instant, je sais pas. Nintendo, Sony et la Xbox ont l'air d'être. Je pense qu'ils sont très ravis d'être exclus de cette conversation.
Oui, complètement.
Mais, enfin, c'est autre chose. Ça, c'est des copains. Mais on ne parle pas beaucoup, vous savez.
Bon, on va conclure en disant, je dirais deux choses. D'une part, c'est marrant parce que j'ai l'impression que le monde en dehors de la tech ne parle pas beaucoup de ce jugement, alors qu'il est absolument vraiment massif.
Ça n'intéresse que les technophiles.
Ouais, mais ça remet en question le marché parce que ça risque de toucher. Ça risque de vraiment vraiment changer le marché des mobiles. Encore une fois, Epic a déjà fait appel. S'il ne l'avait pas fait, je ne sais pas si Apple l'aurait fait, mais il y aurait eu des suites. Donc bon, on n'est pas encore à la fin. Alors, ensuite, je voulais aussi mentionner le fait qu'il y a un excellent détail du jugement de Ben Thompson dans son blog Stratechery, qui est un excellent blog d'analyse tech, que je mettrai en lien dans la newsletter. Donc, vous pouvez vous abonner à la newsletter sur notepatrick.com, mais j'aurai ça et plein d'autres choses dont je vais reparler. Mais alors, lui, il a la conclusion absolument opposée à la mienne, mais il n'empêche, il a un excellent détail avec des citations et des explications de tout le jugement. Si ça vous intéresse, je vous encourage à aller y jeter un petit coup d'œil. Et puis, un autre petit mot aussi pour dire que la conférence d'Apple de présentation des nouveaux iPhones a lieu ce soir. Et a priori, il y aura 4 modèles d'iPhone, des Apple Watch série 7 un petit peu plus grandes avec un nouveau design. Par contre, les iPads et les MacBooks ne seraient pas là, contrairement à ce qu'on pensait pendant un moment. Mais bon, ça sera ce soir et on en parlera la semaine prochaine.
Il faut faire quelque chose. Moi, j'attends. Je suis dans la position de plein de gens qui attendent, évidemment, parce qu'on attend des nouveaux iMac plus grands avec les puces M1 et M1X, etc.
Écoute,
il y en a assez d'attentes, c'est bon.
Quelques semaines, Cédric. Normalement, ça sera une conférence possiblement en octobre.
Oui, oui, bien sûr. C'est pas une question de matériel et de disponibilité, je pense. C'est une question de communication.
C'est ça.
Apple préfère concentrer sa communication, surtout sur l'iPhone, et pas délayer le propos dans, tu vois, des choses qui n'ont rien à voir. Le lancement d'iPhone, c'est quand même leur grand moment de l'année, quoi.
C'est sacré. Et ne pas donner des raisons aux journalistes enthousiastes de parler d'autre chose que des iPhones parce qu'ils ont eu enfin leur MacBook Pro, tu vois. Moi, je vois très bien Cédric faire son petit segment. Il y a l'iPhone 13, c'est pas grave.
L'iPhone 13 est très bien, le Note est plus petit. Mais alors, regardez le nouvel iMac, qui est quand même remarquable et incroyable. Voilà pourquoi chez Apple, on n'aime pas délayer le message.
Exactement. Alors du coup, parlons un petit peu de Facebook. Facebook et Ray-Ban qui s'associent pour créer des lunettes connectées, mais pas vraiment. Alors, elles sont pas moches. C'est une première bonne qualité, on va dire, pour des lunettes connectées
qui
généralement sont très moches. Là, ça ressemble à des Ray-Ban, ça a des têtes de Ray-Ban, ça a même le nom de Ray-Ban. Et qu'est-ce que ça fait comme lunettes connectées? Alors attention, c'est pas de la réalité augmentée, hein, du tout. En fait, c'est simplement un petit peu des spectacles de Snapchat, c'est-à-dire que c'est des lunettes qui ont deux appareils photo de 5 mégapixels qui vont pouvoir prendre des photos, quand vous dites prendre des photos, ou en appuyant sur le petit bouton sensitive, touch sensitive, qui est dans le cadre des lunettes. Et ça a aussi deux haut-parleurs qui peuvent jouer de la musique ou des podcasts, ce genre de choses. Elles ont 6 heures d'autonomie à peu près. Elles se connectent à une application sur votre téléphone pour télécharger les photos. Et ça peut aussi faire des petites vidéos, hein, bien sûr. Et il y a une petite loupiote qui s'allume quand vous l'utilisez. Cédric, est-ce que c'est ça la pire idée du monde que je teasais tout à l'heure? Ou pas.
Je pense que c'est pas ça, non. Je pense que c'est autre chose, mais j'ai encore du mal à penser que c'est une bonne idée. On a vu ce que Snap avait fait avec ses lunettes. Ils ont essayé, ils ont itéré. Enfin, tu vois, ils en ont fait
ils
plusieurs.
En encore, bref, hein. Ils en font encore.
Ils en font encore. Tout à fait. Bon, on a vu que ça reste un marché de niche, une curiosité. Enfin, un truc rigolo. C'est rigolo quand tu l'essayes, et puis après on te dit bon, c'est $300, et tu dis oh, ouais. Alors peut-être non. Alors, peut-être quand j'aurai acheté mon nouvel iPad, le machin, quand l'iMac sera sorti, après, je vais... Mais tu vois, cet outil indispensable, mais que tu te mets sur le nez que quand il y a du soleil, ça n'a pas beaucoup de sens. c'est pas grave. Je veux dire, c'est pas la première fois que Facebook fait des trucs qui ne fonctionnent pas. Enfin, pas qui ne fonctionnent pas, mais qui n'ont pas accroché
le marché.
Qui
n'ont pas d'intérêt, c'est ce que tu veux dire, qui n'ont pas d'intérêt.
J'ai un intérêt. Non, mais c'est pas que ça n'a pas d'intérêt. C'est rigolo, c'est chouette. Et ça a un intérêt un peu limité. C'est d'autres l'ont tenté avant eux. Et après, c'est Facebook. Et donc, forcément, tu vois, l'empreinte de Facebook fait que ça peut marcher. Mais ce n'est pas ça qui va changer Facebook. Et Facebook est habitué à ça. Enfin, regarde l'énergie déployée autour de la réalité virtuelle, réalité augmentée. Regarde toutes les applications. Souviens-toi de Facebook Home. Cette appli qui avait totalement redéfini. Ils avaient même fait un smartphone spécial à l'époque avec HTC. Le truc qui est parti dans la poubelle de l'histoire aussi vite qu'il est sorti. Il y a des choses parfois où ça leur sert. Je me souviens de Slingshot, de trucs comme ça qui, tout à coup, tu vois revenir dans les interfaces d'autres applications de la galaxie Facebook. Donc voilà, au moins, c'est pas perdu. Là, j'ai du mal à y croire.
Moi, il y a deux choses à noter. D'une part, il y a des questions de vie privée, évidemment, qui se posent tout de suite, parce que des lunettes qui ressemblent... Les spectacles, encore, c'était assez dur de penser que c'était des lunettes normales. Celles-là, c'est juste des Ray-Ban. Alors, il y a la petite loupiote qui s'allume, mais il y a quelqu'un qui a mis un petit scotch noir sur la loupiote et une petite LED.
Un vernis à ongles noir, enfin.
C'est ça. Et Facebook disait, ça c'est contre nos termes d'utilisation, nos conditions d'utilisation, donc c'est illégal, machin. Bon, évidemment, ça pose des questions, ça a des préoccupations significatives, notamment parce que c'est Facebook qui les fait. Mais au-delà de ça, moi, je me raccroche à un truc que tu disais à l'instant, c'est que pour moi, c'est leur devoir de vacances qu'ils font pendant qu'ils travaillent sur des appareils beaucoup plus ambitieux de réalité augmentée, peut-être de réalité virtuelle. Et ça, c'est un premier contact avec les appareils un petit peu consumer, comme un vrai travail, enfin devoir appliqué pour voir ce que ça donne dans un vrai produit. Et en plus, c'est Ray-Ban qui est venu les voir en disant faisons un truc ensemble, donc idéal pour eux, ils n'ont pas eu besoin d'aller démarrer qui que ce soit, ils ont dit ok, on se lance. Et c'est vraiment, comme je dis, c'est les devoirs de vacances pour moi.
C'est un truc de géant, c'est-à-dire c'est comme quand Intel, par exemple, pendant longtemps, avait des studios de design, alors qu'Intel, eux, ils font des puces, tu vois, juste pour accoucher de nouveaux designs de PC, de portables, de machin, pas pour les vendre, eux, aucun intérêt, mais pour donner des idées à des constructeurs qui n'avaient pas, évidemment, la même puissance de feu en R&D. Donc, c'est pour ça que je dis que ça fait partie de la mission d'un Facebook, comme ça ferait partie de la mission d'un Apple. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que vous avez un fric fou, vous faites déjà beaucoup de R&D, donc arriver à essayer de repousser et du coup espérer, le jour où ça accroche, être les premiers sur l'évolution de nos interfaces, c'est bien, c'est logique, c'est normal. Non, est-ce que c'est pour ce coup-là ? Non, je suis d'accord avec certaines analyses qui disent que finalement, avec le recul maintenant, on s'aperçoit que le smartphone, ce n'est pas bon pour tout, c'est pas, etc. C'est vrai. Et il y a toujours ce... Bon, là, il y a le problème de lunettes qui vont être des lunettes de soleil. tu vas les mettre au bureau, tu aurais quand même un million. ou alors, ça, tu peux en faire des lunettes de vue si tu veux. Enfin, c'est autre chose.
Des Ray-Ban en lunettes de vue, ça fait bizarre quand même. Hein. Ça se
ah, c'est un genre. Hein. Ou alors, tu les mets avec des verres jaunes, tu vois, comme Clint Eastwood. Mmh. Dans...
Et, en plus, ça, c'est mais... les Ray-Ban classiques, hein, avec les, le frame, ouais, le comment dire,
ouais, la... c'est celle de Joe Biden, quoi, tu vois, les
ouais, trucs de, le truc un peu épais, pilote, c'est pas le truc en, en voilà, oui, non, pilote, c'est les très fines,
les aviateurs, voilà, voilà. Et donc il faut le blouson en cuir qui va avec, enfin d'un coup c'est voilà, ça commence à coûter cher, et on aboutit toujours au truc où tu te dis bon bah voilà, encore un truc de plus à recharger le soir, chouette, ouais. Je suis tellement heureux.
Alors le boîtier recharge 2 fois 6 heures en plus, donc t'as tu vois 18 mmh. heures en tout, mais bon.
Bon, donc écoute... ça servira à des trucs, c'est chouette. Bon, c'est, ouais. Ça creuse pas le sillon qui creusait là de, sur la réalité augmentée. Ça fait pas du tout ça. Hein. C'est quand même juste un truc qui embarque un appareil photo, une caméra, machin, etc. etc. Bon,
mais comme le rappelle Cassim dans la chatroom, et comme je le disais tout à l'heure, Facebook est déjà en train de travailler sur des projets de lunettes réalité augmentée. Le projet Aria, dont on a entendu parler il y a quelques temps déjà. Donc, ouais. Bon, bah écoutez, voilà, donc, mais ça, c'est pas la pire idée du monde. La pire idée du monde, il faut attendre encore un tout petit peu pour que je vous la présente. Et ça arrive dans pas longtemps. Attends, en fait, tu sais quoi ? Avant la pire idée du monde, une idée qui pourrait sembler être la pire idée du monde, mais qui est en fait pas bête du tout, c'est les toilettes connectées. Et là... comme beaucoup de monde, vous entendez toilettes connectées et vous allez ricaner bêtement et de façon un petit peu puérile. Comme moi, je l'ai fait aussi en voyant cet article. Et bien, figurez-vous que c'est en fait quelque chose d'extrêmement sérieux. C'est des toilettes qui vont analyser les selles et l'urine et qui vont pouvoir avoir des données sur votre santé beaucoup, beaucoup plus poussées et intéressantes pour un professionnel de santé qui va vouloir vous diagnostiquer. Bah, que votre montre, que n'importe quel autre capteur. Et il y a plusieurs sociétés qui travaillent sur ce type de produit et qui pourraient vraiment envoyer des données à votre médecin ou à un spécialiste pour vous suivre de manière beaucoup plus précise que vous ne pourriez le faire autrement. Donc, je suis vraiment passé en lisant le titre de toilettes connectées, c'est quoi cette connerie, à en fait c'est très sérieux et c'est hyper intéressant. Alors j'imagine que tout le monde pourra pas avoir des toilettes connectées chez soi, encore que pourquoi pas, ça pourrait être un truc qui serait un produit relativement, j'en sais rien, produit relativement accessible, mais là on passe aux choses sérieuses au niveau des données de santé, quoi.
Ouais, parce que l'enjeu de toutes ces choses sur la santé, c'est d'arriver en gros à te surveiller au long cours sans te forcer, tu vois, par exemple, à prendre ta tension toi-même 3 fois par semaine, enfin le truc un peu chiant, quoi. Et donc tu réfléchis en disant bon,
un peu chiant sur les toilettes.
Mais non, j'en étais pas là. Pardon. Je parlais de ta tension.
Ok. Excuse-moi. Attends. Il faut que je fasse un truc. Excuse-moi. Tu peux la refaire, donc un peu chiant. Ah, un peu chiant sur les toilettes. Attends. Ça marche pas.
Ouais, je suis d'accord.
Voilà.
C'est pour ça, par exemple, que tu vois, on a intégré, je sais pas, des cardiofréquencemètres dans les matelas. Non, bah oui, il faut bien que tu dormes la nuit, donc ça tombe bien, tu seras là, au même endroit, tous les soirs, etc. Et c'est intéressant, parce que ce papier du Wall Street Journal, bon, il est passionnant, il te raconte ce qui se passe à Stanford et ailleurs, mais moi, c'est des trucs que j'ai vus depuis 15 ans, au Japon, par exemple, où là, en revanche, ils se sont posés aucune question sur la vie privée, genre, tu vois, rien à foutre. D'abord parce que c'est tes toilettes chez toi, c'est pas les toilettes publiques, enfin bon, bref. Et puis parce que de fait, par exemple, si tu as un problème de, je sais pas, de diabète, tout à coup, on peut contrôler le sucre dans tes urines, enfin, on peut faire moult choses, on peut rajouter des caméras, on peut, enfin, non, c'est passionnant. Et puis parce que voilà, par essence, tu vas quand même très régulièrement aux toilettes chez toi. Donc en plus,
c'est bien, c'est inclusif. Tu dis pas tous les jours. Donc
Parce qu'il y a, tu peux sauter certains jours. C'est pas grave. Il y a des jours où t'es pas chez toi. Enfin, tu vois, tout peut arriver. Mais je me souviens d'un modèle. Je sais plus de chez. C'est pas chez Toto. Hein, c'est une autre. C'était Hitachi, je ne sais plus, où ils avaient fait un modèle très simple. Tu allais aux toilettes et quand tu étais assis sur le trône, tu avais juste un petit truc sur l'afficheur à côté avec tous les boutons de machin qui disait par exemple « lever les pieds ». Bah, tu levais les pieds et tout à coup, les toilettes te pesaient. Bah oui, tant qu'à faire. Pas la peine d'avoir une balance à côté. Le but, c'est quand même la totale intégration. Et puis là encore, le suivi au long cours. Parce que c'est des choses où c'est l'évolution sur des mois ou des années qui te dit « ah tiens, il y a un truc à surveiller là ».
Je vais juste faire Une petite remarque pour dire que vraiment il faut faire attention aux questions de vie privée quand on fait ce genre de produit. Imagine quelqu'un vient chez toi et utilise tes toilettes un jour et du coup ces selles sont analysées, tu as peut-être des informations extrêmement sensibles, donc il faut pouvoir dire attention, non appuyez sur stop pour ne pas analyser ce coup-ci, est-ce que ça va contaminer le truc, enfin c'est vraiment ça pose vraiment beaucoup de questions. Donc
ça me rappelle l'histoire d'un confrère que je ne nommerai pas ici parce qu'il est fameux sur Twitter, qui racontait que la première fois qu'il a eu une balance connectée, une WeThings, comme tout le monde, il s'est aperçu qu'il y avait une fonction qui te permettait de auto-tweeter ton poids à chaque fois que tu te pesais. Et un jour, il voit le compte Twitter qui tweet un poids qui n'est pas le sien, ni celui de sa copine du moment, ou tu vois... Ah, je ne comprends pas. Et d'autant que l'application reconnaît, parce qu'évidemment, même avec des petites variations, elle dit « Ah oui, je te connais, toi, t'es Cédric.
Oui. »
Tu fais « Bah oui, d'accord. Ouais. » Et là, la balance te dit d'ailleurs, « Tiens, là, j'ai des mesures, je ne sais pas à qui elles appartiennent. » Et lui avait activé le Twitter automatique parce qu'il trouvait ça rigolo.
Donc sa copine le trompait c'est...
Non, c'était sa femme de ménage.
Ah bon, ok, donc ça va.
Qui utilisait la balance une fois de temps en temps, et donc tout le monde savait qu'elle faisait 67,2 kilos. Enfin, tu vois,
bon. Non, mais moi, j'ai cru que c'était une fin bien plus terrible.
Ah non,
tu vois,
c'est terrifiant.
Oui. Non, bon,
non. Effectivement. L'amant de sa copine qui vient et qui en
mais
profite
oui,
pour peser quand même.
Écoute, au bout de quelques fois, tu prends tes aises, je sais pas.
Apparemment, oui.
Bon, donc voilà pour cette histoire de toilettes connectées. Et ça n'est pas donc la pire idée du monde. On va y arriver à la pire idée du monde dans un instant. Mais la meilleure idée du monde, vous savez ce que c'est ? C'est de payer pour un podcast que vous pouvez écouter gratuitement. Et vous savez pourquoi c'est la meilleure idée du monde ? C'est parce que vous pouvez du coup soutenir les gens qui produisent du contenu que vous appréciez, du contenu de qualité. Et en plus de ça, vous pouvez avoir accès à des bonus absolument incroyables, cosmiques, comme par exemple le fait de ne pas avoir de pub du tout dans l'émission. Vous pouvez aussi avoir des time codes pour les différents sujets qu'on traite. S'il y en a un qui ne vous intéresse pas, vous pouvez y aller très rapidement, vous pouvez le passer très rapidement. Vous avez les after shows, les contenus bonus, tout plein de choses, et surtout, comme je le disais, le plaisir, le fait de savoir que vous rejoignez une communauté de gens qui sont actifs et qui soutiennent vraiment la création de contenu un petit peu atypique, des choses qu'on retrouve pas dans les médias traditionnels et qui sont, je crois, importants. Qui va pouvoir parler de tous ces sujets pendant une heure et demie toutes les semaines pour vraiment les explorer et les comprendre? Franchement, dans les médias traditionnels, je vois pas trop. C'est des contenus vraiment différents qui n'existent que parce que vous les soutenez. Sans ça, tout s'écroule. Donc, je vous remercie tous et toutes de soutenir le Rendez-vous Tech. Vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech pour rejoindre la formidable équipe des Patriotes et qui se retrouve d'ailleurs sur le Discord également, mais patreon.com/rdvtech.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On me dit Cédric va apprécier. J'aime beaucoup ce que tu fais, Cédric, mais c'est vrai que tu ne peux pas parler une heure et demie du procès et des sujets tech sur les médias traditionnels. C'est une autre forme de communication sur le sujet et celle-ci est importante aussi, je crois. En bon fan de podcast,
oui,
tu ne diras pas le contraire.
Jamais.
Alors, on y arrive à la pire idée du monde. la pire idée du monde, c'est ce qui est en train de se passer au Brésil et au Texas, et entre parenthèses aussi, c'était en Floride, je crois. Au Brésil, Jair Bolsonaro a fait voter une interdiction qui est temporaire, dans le cas du Brésil, aux réseaux sociaux de... Alors, comment est-ce qu'il le formule exactement ? De censurer les personnes pour leurs opinions. Et là, on se dit, bah, ok, c'est bien, c'est une bonne idée, on ne peut pas censurer les gens quand même, les réseaux sociaux. Mais évidemment, ce qui se cache derrière, c'est cette idée complètement fantasmée qui est très populaire dans l'extrême droite, que les réseaux sociaux censurent et suppriment leurs opinions parce qu'ils sont de cette mouvance politique. Alors que, bon, évidemment, il y a une certaine activité des réseaux sociaux dans la modération de contenu quand ce contenu contrevient à leurs conditions d'utilisation ou est dangereux. Et il se trouve qu'un certain nombre de personnalités politiques aux États-Unis et ailleurs, et notamment au Brésil dans ce cas-là, se sont vus avertis, voire sanctionnés par les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou même d'autres, parce qu'ils communiquaient des contenus problématiques. Et donc, le Brésil ayant une élection qui s'approche, Jair Bolsonaro, craignant de se voir couper comme Donald Trump des moyens de communication, a fait voter cette loi qui interdit aux réseaux sociaux, en pratique, de... alors, ce qu'il dit, c'est de censurer, enfin de supprimer du contenu qui n'a pas été jugé illégal par les tribunaux. Sachant que, vu la quantité de contenu publié sur les réseaux sociaux et le temps que ça prend pour faire un jugement, on va dire, décent, ça veut dire concrètement qu'aucun contenu ne peut être censuré. On a au Texas un petit peu la même idée. Aux États-Unis, cette loi a de fortes chances d'être retoquée par les juges fédéraux. Ça a d'ailleurs déjà été le cas en Floride, où un jugement similaire a été rendu pour une loi similaire. Au Texas, donc, ils ont voté une loi comparable qui dit qu'on n'a pas le droit de censurer, enfin, de supprimer les contenus basés sur des opinions politiques. Et encore une fois, la différence politique, l'opinion politique est une idée qui est séduisante et qui est très séduisante dans l'extrême droite, notamment américaine. Mais en pratique, ce que ça veut dire pour les réseaux sociaux, c'est que ils n'ont pas le droit de censurer tout ce qui est fake news, tout ce qui est harcèlement, tout ce qui est tout le pire de tous les réseaux. Et légalement, si on s'en réfère à ces lois-là, ils n'ont plus le droit de le supprimer des réseaux. Est-ce que c'est la pire idée du monde, Cédric, ou juste pas loin ?
C'est pas loin, faut dire. Hein. C'est assez impressionnant. Je pense pas que ça va aller très loin, parce que le problème, c'est que tes relations avec ces réseaux sociaux, elles sont régies par la loi, mais elles sont aussi d'abord régies par les conditions générales que tu as acceptées. Donc, et puis, de l'endroit... En gros, en ouvrant ton compte, tu as accepté déjà certaines restrictions, comme par exemple la juridiction devant laquelle tu peux les attaquer. Enfin, et je pense que les plateformes vont ignorer ça avec une grande superbe, parce que de toute façon, elles peuvent pas céder à ce genre de truc, à ce genre de chantage. C'est intenable.
Mais on peut imaginer ce que deviendrait un Twitter ou Twitter. Déjà que c'est le temple du harcèlement et que Facebook est le temple des fake news et qu'ils suppriment des millions et des millions de contenus, j'ai presque envie de dire chaque jour. Imaginez un contenu. Parce qu'en plus, si c'est interdit de supprimer quoi que ce soit, imaginez les opportunités des hackers, des arnaques, de tout. C'est, franchement, ça transforme les réseaux sociaux, déjà que c'est loin d'être le paradis, ça les transforme en enfer l'écrit. C'est... Alors, il faut noter
On comprend l'idée qui se cache derrière. Hein. C'est quand même une immense transparence. On sait parfaitement que, voilà, en gros, il ne veut pas que lui arrive à lui ou à ses alliés ce qui est arrivé à Trump.
Complètement.
Il en voit les effets. C'est quand même, il y a un avant-après. Et... dire que c'est pas d'une, comment dire, le moyen et pas d'une discrétion, enfin tu vois, c'est pas ah oui tiens d'ailleurs, alors en fait non, et puis il l'a annoncé avec pertes et fracas, donc de toute façon c'est d'abord une stratégie de communication.
Au Brésil spécifiquement, disons que tu dis ils vont l'ignorer, je suis pas convaincu, enfin je suis pas sûr parce que c'est quand même une loi qui est auquel ils devraient se tenir. Ignorer la loi d'un pays, on peut dire ok, le Brésil c'est pas grave, mais enfin du coup ça veut dire qu'ils, peut-être qu'ils diront bon bah du coup on opère plus dans ce pays, mais je suis pas convaincu que ça soit la meilleure solution non plus. Bref, on sait pas ce qui va se passer.
Ils peuvent mettre en place, tu peux mettre en place des système par exemple de modération forcée pour certains comptes en disant attendez, d'accord, mais vu le passif de tel compte, maintenant chaque message il nous faudra 5 jours pour le valider avant qu'il soit
je ne sais pas s'ils sont dans l'esprit de la loi hein, dans ce cas là mais
en tout cas le but c'est qu'ils ne ferment pas les comptes. Le compte n'est pas fermé, monsieur, mais
oui,
bon, pour vous il y a un tout délai.
Ouais. Il parle pas simplement de compte, hein, il parle de postes spécifiques. C'est au niveau des postes spécifiques. Donc, ils n'ont pas le droit de supprimer même un contenu, un tweet, un post sur Facebook, bref. Et je note aussi, et puis on va avancer, qu'aux États-Unis, c'est encore plus transparent parce que c'est le premier amendement qui dit que le gouvernement ne peut pas contrôler le discours et le free speech, donc ce qu'on peut dire dans la société. Et le fait de dire vous n'avez pas le droit de décider ce qu'on peut dire sur votre plateforme, bah, c'est une attaque directe au premier amendement. Donc comme en Floride, il est évident que la chose va être retoquée au Texas également, et donc c'est encore plus encore plus qu'au Brésil où le but est d'être présent pendant les élections. Là au Texas, ça a l'air d'être vraiment une décision purement de communication pour dire, pour que le gouverneur Abbott, Greg Abbott, puisse dire à sa base bah, regardez, je m'attaque au Big Tech et c'est le gouvernement fédéral qui nous empêche de nous déterminer nous-mêmes. En plus, au Texas, qui a un passif même récent sur ce genre de sujet. Donc, bref.
Alors, si c'est retoqué par la Cour suprême, il va être embêté parce que la Cour suprême, elle est quand même à majorité conservatrice. Donc,
enfin, bon, je pense pas que ça ira jusque-là. Hein.
Ça n'aura pas le temps d'aller jusque-là et on est d'accord sur le fait que c'est une rodomontade, comme on dit.
Alors, d'autres sujets, peut-être le sujet, la deuxième pire idée du monde, on va voir si tu es d'accord avec ça, le Salvador, qui devient le premier pays à adopter le Bitcoin comme monnaie officielle. On en parlait il y a quelque temps, maintenant ça y est, c'est fait, on peut payer en Bitcoin dans le pays grâce à un wallet, je perds mes mots, un portefeuille numérique qui s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, Chivo, je crois, je ne sais plus.
Chivo, absolument.
C'est ça, Chivo, un portefeuille numérique sur lequel est déposé $30 à chaque personne qui installe ce portefeuille. Je crois qu'il y a quelque chose comme la moitié de la population qui n'a pas accès à Internet hein, ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc, c'est une décision qui est controversée. Il ne faut pas oublier que la monnaie officielle du pays reste le dollar et qu'on peut toujours payer en cash, en dollars, partout dans le pays. On peut utiliser l'un ou l'autre. Et évidemment, le Bitcoin se convertit en dollars avec le premier problème qui se fait jour, c'est la volatilité du Bitcoin. Entre le moment où la loi a été votée et le moment où les gens ont reçu les $30 sur leur portefeuille, oui, on parle bien de dollars américains. Hein. Le dollar américain est la monnaie, je réponds à la chatroom, est la monnaie, et c'est vrai que c'est une vraie question, c'est la monnaie officielle du pays à laquelle est adossé le truc. Et donc, entre le moment où ils ont eu les $30 déposés en Bitcoin et le moment où ils ont pu commencer à les dépenser, le Bitcoin avait perdu quelque chose comme 20% de sa valeur. Donc, des $30, il n'en restait plus que 24. Donc,
Ça, c'est bienvenue chez Bitcoin.
C'est ça.
Vous n'aimez pas la volatilité,
Entre-temps, le président a acheté quelque chose comme 550 bitcoins pour le gouvernement pour avoir une certaine réserve de monnaie dans ce domaine. Bon, alors, tous les problèmes du bitcoin, on en parle régulièrement. Là, c'est une première quand même. Un pays notable, notoire, qui fait du bitcoin une des monnaies officielles. Deuxième pire idée du monde ou idée intéressante, ou qu'est-ce que tu en dis, Cédric ?
Il faut considérer la situation.
J'aime le soupir qui veut tellement tout dire.
Non, c'est pas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée, ça dépend qui, où et comment. C'est-à-dire que Moi, du coup, c'est amusant parce que ça m'a forcé à aller revoir ce qu'était l'économie du Salvador. Je me suis dit, oui, peut-être qu'ils... Alors, je pense qu'ils avaient pris à l'époque le dollar comme monnaie pour éviter justement ce qui s'était passé dans pas mal de pays d'Amérique du Sud. Tu vois, l'inflation galopante, la planche à billets, enfin, tout ça. Et de fait, ils ont une inflation qui est en dessous ou de l'ordre du pourcent. C'est un pays qui ne va pas si mal, en fait. Alors, c'est compliqué parce que tu as toute une partie de la population qui est dans une économie... informel, hein, dirons-nous. C'est que quand on calcule le taux de chômage chez eux, je crois que c'est 4% ou 6%. Enfin, c'est pas monstrueux, mais c'est parce qu'on ne sait pas le compter vraiment. Tout ça participe d'un truc où ils aimeraient arriver à commencer à se détacher du dollar, mais sans retourner vers des monnaies locales qui seraient à la merci d'une majorité, puis d'une autre, de la planche à billets, tout ça. Donc, pourquoi pas ? Ce qui est intéressant, c'est que pendant ce temps-là, de plus grandes économies, elles, regardent plutôt du côté des monnaies numériques, mais là, de banque centrale. C'est-à-dire de dire, on va faire un livre numérique, on va faire un euro numérique, on va faire un dollar numérique, pourquoi pas. Bon, là, le chemin est un peu plus long parce qu'il faut reprendre les choses du début et puis surtout se poser plein de questions sur ce que tu veux faire, tous les effets de bord de ça. Enfin, parce que tout à coup, il faut quand même imaginer que ton petit portefeuille numérique, tout à coup, ça devient ton compte en banque, en fait. Et donc, je te promets que, par exemple, les banques regardent ça, genre, vous êtes sûr ? Ça ne nous intéresse pas beaucoup, nous, on vous le dit tout de suite. Hein. C'est pour ça que, par exemple, Christine Lagarde, en parlant d'un futur euro numérique, pour l'instant, ils sont en train de prendre des précautions en disant non, mais le but n'est pas que ça remplace quoi que ce soit. Oui, et surtout, le but n'est pas que la Banque Centrale Européenne devienne une banque de détail pour tous les citoyens européens. Donc, non, vous pourrez en prendre pour 2000 euros ou un truc comme ça. Enfin, ce n'est pas très crédible, je trouve. Mais voilà le chemin sur lequel tout le monde se lance. Alors évidemment, il y a des pays qui peuvent dire « Bon non, finalement, Bitcoin, c'est bien. » Parce que évidemment, ça a une masse telle que il y a peu de chances, hein, dit-il, en prenant des précautions oratoires terribles, que tout à coup, il y ait des swings, tu vois, des trucs genre « Ah, j'ai fait moins 60% un jour, plus 80 l'autre. On n'est pas dans le royaume. »
D'un jour sur l'autre, Bitcoin, non, là, mais sur quelques semaines, on a déjà vu le Bitcoin faire bien le yo-yo à 30-40%. Alors peut-être que oui, ça va stabiliser, mais en l'état...
Oui, mais ça embarque tellement d'argent aujourd'hui que c'est difficile pour un seul acteur de manipuler le cours. Tu vois ce que je veux dire ? Là où la difficulté, c'est que si le Salvador avait lancé le Salvador token... là tout à coup quand tu vois l'État c'est juste acheter 550 bitcoins, alors ça fait quand même beaucoup d'argent, mais quand même là de fait il suffirait d'un acteur extérieur pour faire très très mal au cours de la monnaie d'un jour sur l'autre, ce serait pas terriblement sécurisant. Donc le Bitcoin a pour lui son volume et son côté accessible de partout, etc. maintenant le problème c'est que dans la vraie réalité vraie, le Bitcoin n'est pas une monnaie d'usage. C'est pas, tu vois, l'histoire de j'ai acheté ma pizza en Bitcoin. Dans la vraie vie, je connais personne qui utilise de manière courante des Bitcoins pour acheter des choses. C'est pas une monnaie d'usage, c'est une monnaie qui stocke de la valeur. Or là, ils veulent l'imposer comme une monnaie d'usage. Ce qu'il leur faut, c'est plutôt, tu vois, les trucs à la Facebook, par exemple. C'est-à-dire que t'as
Libra. Diem maintenant.
Diem, pardon, plus Libra. Mais c'est-à-dire que des monnaies stables ou stabilisées par eux ou par d'autres qui deviennent un équivalent numérique de la monnaie normale. Mais le problème, c'est que leur monnaie normale, c'est le dollar. Alors, ils auraient pu être très gonflés et dire, bon, vu qu'on fait du dollar, nous, on va le faire, le dollar numérique. Fuck you.
Ouais. Ouais, je pense que ça... Aussi, mais tu sais, il y a déjà des stablecoins adossés au dollar, à d'autres monnaies, à plusieurs monnaies.
USDT, USDC, ouais. Tout ça, bien sûr.
Il y a d'ailleurs, évidemment, il y a des problèmes qu'on n'évoque pas et que les gens dans la chatroom évoquent. Le coût, entre guillemets, des transactions, de chaque transaction unitaire, c'est compliqué avec le Bitcoin. Le fait que, alors, c'est vraiment peu probable à ce stade, mais si quelqu'un contrôle 51% du réseau, ça on peut contrôler, on casse la chaîne de confiance. Alors, c'est vraiment peu probable, mais j'ai appris il y a peu de temps qu'aujourd'hui, il y avait quelque chose comme 7 sociétés slash groupes de minage qui représentent une majorité de la capacité de minage sur Bitcoin. Oui. Non, bien sûr, mais c'est ça qui est important, parce que le minage fait la validation des transactions aussi. Donc, oui. Et tu vois, c'est 7 groupes. C'est pas que c'est des milliers de petites personnes avec leurs ordinateurs dans leur placard, tu vois. C'est 7 groupes. Donc, bon, on n'est pas un pays qui contrôle 51%, ouais. mais c'est pas non plus...
Il y a un autre problème à plus ou moins long terme, c'est qu'il va falloir sortir du minage.
Ça, c'est encore autre chose.
Proof of work contre le proof of stake, etc. Parce que là, on crame de l'énergie et des cycles de calcul de processeurs. Pas pour se faire plaisir, mais juste pour faire plaisir à un algorithme qui dit bah, c'est comme ça et c'est pas autrement.
Et s'il y a d'autres monnaies et d'autres systèmes comme l'Ethereum qui sont en train de faire cette transition, le Bitcoin, c'est pas du tout au programme. Parce qu'en plus, vu les gens qui ont investi dans des opérations très très lourdes pour miner des Bitcoins et pour avoir eu leur mot à dire dans cet écosystème, ils sont pas du tout motivés à un passage à un autre système, enfin un système de preuve, non pas de travail, mais de preuve d'intérêt. Bon, bref, donc effectivement, c'est compliqué. Et aujourd'hui, le Salvador. Et tu me disais que l'Ukraine est en train de réfléchir à faire du Bitcoin une monnaie absolument. Officielle également. Donc,
pareil, en parallèle au hryvnia, la monnaie locale, parce qu'évidemment, ils ont failli presque prendre le chemin de l'Union européenne il y a quelques temps, il y a une dizaine d'années. J'étais en Ukraine et tu avais des grands drapeaux européens partout. Waouh! Bon, on va dire que leur voisin à l'Est
n'a pas apprécié.
Un grand coup de règle sur les doigts, accessoirement en envahissant la frontière. Oui. Mais il faut dire que c'était un pays quand même qui était divisé par une frontière invisible un peu par le milieu, tu vois. Il y avait quand même les gens de l'Ouest et les gens de l'Est, donc c'était un peu compliqué.
Ouais.
Mais toujours est-il que, voilà, plutôt que de faire sa propre monnaie, là aussi, pour les mêmes raisons, je pense. Ils ont décidé, ça coûte rien en plus, hein. C'est un trait de crayon, hein. Tu dis, Bitcoin est une monnaie légale. La monnaie légale, ça veut dire plein de choses, il faut que ce soit accepté partout, il faut que ce soit accepté... Et puis il y a toujours l'espoir de dire, finalement, on prend comme monnaie légale une monnaie qui, sur la longueur, gagne en valeur. Donc tout à coup, tu peux annuler de l'inflation, tu peux même rendre plus de pouvoir d'achat aux gens, toi en n'ayant rien fait, là, pour le coup.
Ouais, sauf que si ça perd de la valeur, c'est l'effet inverse.
Ouais, mais c'est pas ta monnaie à toi. Tu dis, vous n'aviez qu'à pas acheter de Bitcoin. Fallait écouter tous les gens qui vous disaient que c'était une mauvaise idée. Mais au moins, personne ne pourra dire, c'est toi qui fais marcher la planche à billets, c'est toi qui as déclenché l'inflation, c'est toi qui as dévalué la monnaie. Non, c'est pas moi.
Un très bon discours de président, tu sais, qui prend l'antenne après 6 mois de catastrophe de crypto-monnaie.
Vous avez déconné.
Franchement, sérieux. Bon, on continue avec Twitter qui a quand même une dynamique qu'on ne leur avait pas connue jusqu'à maintenant, avec des tests sur plein de choses différentes. J'ai l'impression qu'on a parlé de Twitter à chaque épisode depuis plusieurs semaines, et ils ont aujourd'hui plusieurs tests dont je voudrais parler un petit peu rapidement. D'une part, ils ont commencé à tester le fait d'avoir des réactions en emoji au tweet. Et alors, ils ont beaucoup travaillé la chose parce qu'ils n'ont pas d'emoji vraiment négatif. Parce qu'ils se sont dit, ça donne lieu à du harcèlement, il y a des problèmes sur Facebook, il n'y a pas de flèche vers le bas ou de pouce vers le bas, ce genre de choses. C'est genre, je réfléchis, une petite larme, une grosse rigolade, bravo, ou alors un gros cœur. Et c'est un test qui a lieu en Turquie en ce moment. Alors évidemment, on peut toujours imaginer que par convention, le je réfléchis sera une forme de harcèlement. parce que c'est vrai que on peut utiliser les choses comme on le souhaite, mais moi je trouve ça, je sais pas vraiment ce que ça apporte à la plateforme Twitter. Peut-être que ça permet un petit peu plus d'engagement facile. Je sais pas, il y a quelques années j'aurais dit mais c'est marrant, c'est sympa, pourquoi pas. Aujourd'hui je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais bon, c'est là. Je vais dire 2-3 autres choses et puis on va réagir. Ils testent aussi l'affichage des photos plus comparable à Instagram, c'est-à-dire les photos sur toute la largeur de l'écran plutôt que simplement à l'intérieur d'un tweet, donc ça rend le média beaucoup plus visuel, et c'est vraiment là clairement un truc qui ressemble beaucoup à Instagram. Et ils testent aussi les communautés. Alors ça, c'est un petit peu plus obscur, c'est-à-dire qu'ils chercheraient l'idée de tweeter à des communautés. J'ai l'impression que c'est un mélange entre Reddit et les hashtags. Et les hashtags, donc, qu'on tweeterait sur le sujet, je ne sais pas, jeux vidéo. Et donc, on rejoint cette communauté, on tweet dans cette communauté. C'est comme si on tweet sur un sujet spécifique et on peut voir tous les tweets des autres personnes sur ce sujet. vu la qualité des sujets et des tweets dans le hashtag jeux vidéo, moi, c'est mes cauchemars. À chaque fois que j'ouvre Twitter, ça me fait... Mais l'idée d'avoir des communautés un petit peu plus dirigées et des tweets un petit peu plus dirigés plutôt que cette immense soupe de tout... sur tout et sur rien et sur n'importe quoi dans Twitter, je pense que c'est, il y a une idée à explorer là-dedans. Mais donc voilà, il y a trois tests qui sont intéressants. Je rappelle encore que c'est des tests, qu'on ne sait même pas si ça sera implémenté. Mais donc, il y a les réactions par emoji, les photos à la Instagram et les groupes, les communautés, qui sont des petits groupes, des sous-groupes de Twitter. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Cédric ?
Je suis pas très très fan des réactions en emoji. Autant j'en suis assez fan, tu vois, par exemple sur Messages sur iOS, parce que ça te permet juste de mettre un cœur, un smile, un truc sans rajouter une ligne de texte, c'est pas très grave. Là, ça fait en gros une métadonnée de plus attachée au truc, c'est à côté des likes et des machins. Ouais. Et puis ça génère plus. Ouais, c'est de la réaction plus que de la conversation. Peut-être que c'est juste une analyse de vieux con que je suis en train de te faire en fait. Bon, voilà, je Bof. Autant je comprends la réaction par emoji sur du contenu en direct, par exemple, c'est chouette parce que ça te donne une espèce de, tu vois, tu prends le pouls de la communauté qui est en train de regarder, d'écouter ton truc. Je suis pas super fan. Pour le reste, oui, bien sûr, les photos qu'on voit en plus grand, ça, oui, yes please. Idem pour les vidéos. Enfin non, mais ça coûte. Il y a une expérience visuelle qui s'améliore un peu et que tu ne sois pas limité au cadre de ton truc. Particulièrement dans l'interface web, enfin bref.
C'est marrant ce qu'ils disent à ce propos, c'est que le fait de donner plus de prévalence aux photos augmente l'importance de la communication visuelle sur le réseau, et ça a une conséquence importante sur la nature de Twitter. Parce que
nature des conversations.
C'est ça. Non, mais je veux dire sur ce qu'est Twitter, parce que là, c'est uniquement des trucs écrits et parlés, entre guillemets, et donc ça fait beaucoup de choses un petit peu agressives parfois. Généralement, quand tu mets des photos, tu ne vas pas mettre une photo de toi en train de gueuler sur la dernière déclaration du responsable politique que tu n'aimes pas. Tu mets plutôt des photos de ton chien, de ton café, tu vois. Donc ça transforme, je crois, la nature du réseau aussi. Ce n'est pas juste on rajoute des photos.
Je suis d'accord. On verra après, parce que... Les gens ont Twitter, ont aussi Instagram, et voilà comment les gens le suivent ou l'adoptent, ou tu vois ce que je veux dire, c'est à voir.
Bien sûr.
Moi, j'aime bien l'idée de tout ce qu'ils font sur un peu l'automatisation, l'autocuration, qui est toujours pas un joli mot, du contenu pour quand tu vois un compte X ou Y, surtout mal auto-décrit, tu vois, genre bonjour, voilà, je m'appelle Henri. Ok, savoir que Henri, finalement, il est quand même spécialiste de tel truc, tel jeu, et qu'il est très très bon, je sais pas quoi, tu vois, en finance publique, et enfin bref, et qu'il est fan du PSG. Bon, tout à coup, voilà, c'est arriver à qualifier les choses ou à trouver des nouvelles. Ils le font déjà, tu vois, on te dit, tiens, tu as suivi machin, veux-tu auto-suivre toute cette série de personnes qui sont du même acabit ? Pour l'instant, j'hésite à le faire, parce que c'est un peu genre, non, je vais juste suivre lui, pas 23 autres, mais ça a l'air intelligemment fait, donc peut-être que je vais me laisser tordre le bras gentiment.
Et donc, tu parles des communautés, là, effectivement. Ouais. Je serais curieux de voir ce que ça donne. Pour les grandes communautés un petit peu larges, je crois qu'on voit très vite les choses, les effets négatifs, parce que du coup, on entend tout le monde sur des sujets spécifiques. Et comme je le disais, les hashtags, les topics, ça ne fonctionne pas bien. Mais peut-être pour des communautés plus réduites, on peut imaginer, par exemple, une communauté du rendez-vous tech ou du rendez-vous jeu, où on serait entre nous en train de discuter, comme on le fait sur Discord aujourd'hui, mais dans une application qu'on a déjà, qui serait un endroit un petit peu différent. Pourquoi pas ? Ça pourrait peut-être donner quelque chose.
Voilà.
Eh bien, écoutez, je crois qu'on arrive au terme de cet épisode. J'ai plein de sujets hyper intéressants également qui seront dans une bonne partie qui sont sur le compte Twitter RDVTech, puisqu'on parle de compte Twitter. Le compte Twitter RDVTech où je fais ma veille maintenant tous les jours, ou presque, avec le meilleur de ma veille qui est expliqué très succinctement, très synthétiquement, mais avec autant de détails que possible. C'est un exercice qui est compliqué, mais qui, je crois, fonctionne pas trop mal. Donc ça, c'est sur RDVTech. Vous avez plein de liens très cool, et donc de ma veille, mais aussi le meilleur du meilleur est dans la newsletter. Et vous aurez certains... Ben oui, bien sûr, la newsletter à laquelle vous pouvez accéder sur notepatrick.com, qui a été un petit peu redesignée d'ailleurs, donc vous pouvez aller y jeter un coup d'œil. Et il y a notamment il y aura des sujets sur la productivité en télétravail. Microsoft a fait une étude là-dessus et les résultats sont assez intéressants. En gros, c'est beaucoup moins riche comme communication et donc ça peut nuire à long terme. C'est très intéressant. Il y a
Ils avaient des outils de travail collaboratif. Oh ouais.
Non mais c'est super intéressant parce qu'ils disent au final en télétravail on finit par se reposer beaucoup plus sur le mail, des moyens de communication asynchrones, donc le mail et les messages directs, plutôt que des conversations justement par message, enfin par call ou ce genre de choses, par Zoom, Teams, ouais, etc.
Et donc, ils font le constat que le télétravail c'est bon pour le travail et un peu moins bon pour la collaboration.
C'est ça, exactement. Et donc, il y a un équilibre à trouver là-dedans. Il y a un sujet sur la modération de WhatsApp. On pensait que WhatsApp était un petit peu plus privé que ça. Et la manière dont c'est modéré, c'est édifiant. Édifiant. Il y a un article de ProPublica qui est vraiment hyper intéressant sur le sujet. Celui-là, je pense qu'il sera dans la newsletter. Je vous invite vraiment à aller y jeter un coup d'œil. C'est un article qui est un peu long, mais qui vaut vraiment le coup d'être lu. Il y a plein d'autres sujets, un réseau de bots réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux liés à la Chine qui a été découvert il n'y a pas si longtemps, qui essayait de copier la manière dont la Russie a influencé la société américaine il y a quelques années. Alors ça n'a pas vraiment fonctionné, mais c'était hyper intéressant aussi. Bref. Plein de sujets, tous ces sujets-là, ils sont sur le compte Twitter RDVTech et sur la newsletter sur notepatrick.com. Je vous invite vraiment à aller regarder ça, je pense que vous ne serez pas déçus.
En fait, je viens d'avoir une nouvelle idée, je pense que je vais faire un podcast hebdomadaire où je ferai tous les sujets que tu n'as pas fait.
Mais tu sais qu'il y aurait vraiment de quoi faire. Hein,
ah oui, mais grave.
Mais en fait, ce compte Twitter et cette newsletter, c'est vraiment un moyen d'évacuer ma frustration de ne pas pouvoir parler de tout, parce que sinon l'émission ferait 4 heures, et peut-être qu'il faudrait un jour faire une émission de 4 heures, mais je ne sais pas si je tiendrais. Il y aurait des choses à dire. Et bon, l'idée, c'est que du rendez-vous tech, c'est quand même de résumer l'actu tech et de la garder un petit peu comestible, on va dire. Donc, je ne vais pas trop, mais il y a beaucoup de sujets hyper intéressants pour beaucoup de monde. Et tout ça est donc dans la newsletter ou même maintenant sur le compte Twitter. Et vraiment, en résumé, c'est genre... Tu connais ces services qui te font un résumé d'un livre de 800 pages? Ils te le font en 5 minutes. Mmh.
Un digest, oui, tout à fait.
C'est ça. Et bien là, c'est pareil. Je vous fais des résumés d'articles qui vous auraient pris 15 minutes à lire. Je vous les fais en 3 tweets. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir le lien après. Ou alors, vous pouvez avoir le même contenu à peu près dans la newsletter. Bref, c'est possible de ne plus rater tous ces sujets. Et j'espère que ça vous plaît. Visiblement, ça vous plaît. Et si on en veut encore plus, et même à vrai dire tout de suite, ce qu'il faut faire maintenant, c'est aller suivre Cédric partout où il est, je veux dire sur internet, hein, pas
le plus simple c'est sur évidemment le plus simple c'est sur @Cédric sur Twitter. Je vous recommande également Les Doigts dans la Prise, mon podcast sur la voiture électrique. C'est promis, le nouvel épisode, c'est ce que je dis à chaque fois, il arrive. C'est surtout on va raconter tous nos road trips plus ou moins contrariés de l'été. Les miens n'étaient pas, mais apparemment il y a des gens qui ne savent pas utiliser une voiture électrique. Mais donc il y a des histoires à raconter, voilà, pour l'instant. Puis après le mois prochain je te parlerai d'autres.
D'accord, il y a des choses qui arrivent, là tu fais un petit teasing, dis-moi.
Il n'y a pas que toi qui sais faire du teasing, mon grand.
Ah, très bien, écoute, j'ai hâte, le mois prochain. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez retrouver tous les liens sur notepatrick.com. Le site a été un tout petit peu... En fait, au premier abord, il est pareil, sauf que quand vous cliquez sur un des cartouches, vous avez des truc un petit peu différent. Vous pouvez aller voir ça sur notepatrick.com. Il y a tous les liens vers tout ce que je fais. C'est un design incroyable, ce site. Je remercie Kevin d'avoir pu caser toutes ces infos de manière lisible sur le site. Et vous avez notamment... deux liens importants. D'une part, le lien pour s'abonner à la newsletter dont je parlais à l'instant, et puis le lien pour retrouver la veille tech sur Twitter, dont je vous parlais également, qui est, je pense, assez intéressante, comme je le disais. Et évidemment, le lien vers le Patreon, patreon.com/rdvtech, pour soutenir l'émission, tout simplement. Si vous appréciez ce qu'on fait, rejoignez-nous, revenez dans la communauté formidable des gens qui sont actifs pour soutenir un autre type de médias. patreon.com/rdvtech. Je vous remercie tous très chaleureusement de votre soutien. Et on vous dit donc à dans une semaine pour, on va débriefer la conférence Apple notamment. Ciao à tous.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.